Pour la quatrième fois, le réseau des attaques d'Europe organise l'Université d'été européenne des mouvements sociaux. Cette année, c'est Toulouse qui accueille ce rassemblement militant et festif du 23 au 27 août prochain, la semaine prochaine. Nous avons donc le plaisir d'avoir Geneviève Azam au téléphone, cofondatrice d'Attaque, pour nous présenter cette semaine avec au menu des débats, des conférences, des ateliers, des activités culturelles et des rencontres.
Bonjour Geneviève.
Bonjour, merci pour cette interview.
Mais avec plaisir. On voulait savoir que cette université, elle est organisée donc à l'initiative d'Attaque, mais il y a beaucoup d'organismes participants. Hein. Pour en citer quelques-uns, il y a Acrimed, OFCDT, Terre Solidaire, le collectif contre les JO de 2020 au Japon, Économiste Atterré, il y a donc tout le réseau Attaque Monde international, Greenpeace, les Amis de la Terre, Réseau Monnaie Locale, voilà pour en citer quelques-uns. Comment elle est née cette initiative européenne de la part d'Attaque et comment s'est fait cette collaboration avec toutes ces organisations?
Alors, l'idée de l'Université européenne des attaques, elle est née progressivement de la nécessité de construire vraiment des réseaux européens qui soient capables d'abord de lire, d'interpréter tout ce qui peut se passer au niveau de l'Europe, de réagir, de contester, de proposer d'autres alternatives, etc. Et ça, c'était vraiment le projet de ATTAC comme association altermondialiste. Hein, bon, nous avons un réseau mondial, mais il y a un réseau européen que nous avons voulu véritablement consolider. Et ce réseau, il a été au départ vraiment consolidé à partir de ATTAC France et ATTAC Allemagne.
D'accord.
C'est un ATTAC qui est très puissant, aussi bien en termes d'adhérents que de visibilité. Bon, et puis maintenant, bien sûr, il y a aussi l'ATTAC Espagne, il y a une ATTAC aussi en Angleterre, etc. Bon, nous pensons que, pour ce qui est de la France, on ne peut pas réfléchir véritablement au monde que nous voudrions voir émerger sans le poser à un niveau, certes, d'abord local, national, sans doute, mais sans prendre en compte la dimension européenne. Et tous ces réseaux sont nés, en fait, à partir donc des forums sociaux mondiaux. Il y a eu des forums sociaux européens aussi qui se sont tenus, le plus célèbre étant à Athènes. Également, il y a eu Florence, il y a eu Paris aussi. Donc, des forums sociaux européens qui se sont un peu effrités, ces forums sociaux européens, alors que l'idée de rencontre de la société civile, disons des citoyens européens autour de grands sujets, nous paraissait absolument centrale. Bon, et puis les attaques d'Europe en général se sont beaucoup mobilisées ensemble lors de les élections pour le traité constitutionnel européen en 2005. Là, des liens importants se sont réalisés avec les autres attaques d'Europe dans le sens d'un refus de cette constitution, de ce traité européen tel qu'il était formulé. Et ensuite aussi se sont créés, mais certains sont antérieurs, beaucoup de réseaux européens sur les questions de l'eau, sur la question de la terre, sur l'énergie, donc évidemment il y a aussi des réseaux syndicaux européens désormais sur la lutte contre le réchauffement climatique et pour la justice climatique. Nous sommes engagés à TAC dès le départ dans nombre de réseaux européens, des réseaux d'associations, d'ONG, qui aujourd'hui se retrouvent autour de ce projet d'université européenne des mouvements sociaux.
Et ce sont des organisations donc, qui ont eu des collaborations avec des attaques européens et qui sont rassemblées donc, sur un mouvement unique, on va dire, c'est ça?
Absolument.
Alors, on parlait donc là, tu parlais des différents attaques, mais il y a énormément d'autres organisations qui participent et des organisations qui, certes, œuvrent tous à de la transformation sociale, à construire des alternatives, mais qui sont quand même sur des positions des fois assez différentes quand même. C'est difficile de rassembler tous ces gens d'horizons aussi divers et surtout, puisque c'est pas la première université d'été européenne des mouvements sociaux qui est organisée, est-ce qu'après, il y a des collaborations qui arrivent à émerger un petit peu de ces rencontres et de ces universités? D'été.
C'est l'idée. Oui, alors les collaborations se sont construites aussi à travers ces événements. Je vous parlais du Forum social européen qui n'existe plus, mais à travers nous, les différentes universités européennes que nous avons eues, des réseaux, des personnes se connaissent mieux, débattent, peuvent mener des actions communes. Donc c'est le sens véritablement de cette université d'été, et donc des universités d'été européennes. C'est un petit peu l'esprit du Forum social mondial ou du Forum social européen, aux grandes heures du Forum social européen. C'est confronter des expériences aussi qui sont diverses, et parfois, comme vous le dites, il peut y avoir des désaccords sur des sujets. Et donc, c'est une manière de poser les désaccords pour tenter de trouver des portes de sortie vers le haut, disons, puisque nous avons besoin tous et toutes, je crois, aujourd'hui, face aux urgences que nous avons devant nous, nous avons besoin véritablement de ces alliances extrêmement fortes.
Et cette année, donc cette université se déroule à Toulouse. Elles avaient eu lieu où les précédentes?
Alors la première a eu lieu en Allemagne. Donc il y a eu Fribourg, Paris et maintenant Toulouse.
Et comment ça se passe? Oui, pardon, vas-y.
Pourquoi ce choix de Toulouse justement?
Alors le choix de Toulouse. D'abord, il y a un savoir-faire du groupe ATTAC Toulouse pour organiser les universités d'été, puisque nous avons eu plusieurs universités d'été à l'Université du Mirail, d'ailleurs, d'ATTAC France, qui ont eu lieu à Toulouse. Donc il y a un savoir-faire. Bon, il y a cette université Jean Jaurès maintenant qui offre quand même pas mal de facilités par rapport à d'autres universités. Le monde a changé depuis la création d'ATTAC. Auparavant, nous avions des universités qui étaient prêtées gratuitement. Et désormais, avec les transformations de l'université, notamment aussi les partenariats publics-privés dans les universités, c'est extrêmement onéreux. Donc les conditions de la fac de l'Université de Toulouse restent tout à fait accessibles, disons, pour pouvoir accueillir un tel événement. Et donc ça s'est fait ainsi. Bon, il y avait quand même l'idée qu'il fallait que ce soit une grande ville, desservie, puisqu'il y aura des personnes qui vont venir d'Allemagne, qui vont venir de Suisse, d'Italie, d'Espagne. Donc il fallait que ce soit une métropole quand même, qui puisse permettre à des gens qui viennent d'un peu loin de pouvoir venir en train assez facilement, sans trop de temps. Voilà, donc c'était Toulouse, il y avait possibilité à Marseille, et on voulait essayer de ne pas la refaire à Paris. Donc voilà, puis à Toulouse, il y a, c'est vrai, toute une vie. L'idée de cette université, c'est de montrer que nous sommes devant des urgences extrêmes, je dirais, que ce système dans lequel nous sommes est en train, sans doute, de s'effondrer, en portant avec lui des solidarités sociales, des sécurités aussi, des solidarités. Je pense par exemple aux migrants, ça va être très présent aussi dans l'université d'été. Sur le plan économique, quand même des catastrophes économiques, des catastrophes écologiques. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat, bien entendu, qu'on partage assez facilement, c'est de hiérarchiser ce que nous avons à faire et de faire apparaître un monde qui émerge. Il y a sous cette crise, qu'on appelle crise encore, ou sous cet effondrement, il y a partout des mondes qui émergent. Et donc notre idée, c'est de faire apparaître, de rendre visibles ces mondes qui émergent. Et il est vrai que la région toulousaine, Toulouse et la région toulousaine, accueillent un nombre important d'initiatives, d'alternatives, d'expériences qui méritent absolument d'être connues, qui seront visibilisées et qui sont des appuis pour pouvoir, globaliser ces expériences. Voilà, donc le choix de Toulouse tient à cela aussi. Ce microcosme toulousain, cette mouvance toulousaine aussi, d'initiatives, d'expériences dans plusieurs domaines, y compris le domaine culturel d'ailleurs, qui permettent justement de semer ces graines pour ces mondes que nous voulons voir émerger et qui émergent déjà.
Après, réunir un éventail aussi large de collectifs, d'associations qui se battent sur toutes sortes de sujets divers, est-ce que c'est pas aussi l'occasion, là, vu l'offensive néolibérale en cours un peu partout en Europe et ailleurs, est-ce que c'est pas l'occasion là de créer un rapport de force, de fédérer un peu tous ces gens pour créer un vrai rapport de force?
L'idée, c'est celle-ci, bien sûr, hein. Alors disons que ce moment-là n'est pas un moment de rapport de force. Bon, je pense que pour l'instant, nous avons plus de 1000 inscrits, mais nous savons très bien que Beaucoup de gens ne s'inscrivent pas, donc on aura sans doute 1500 personnes. Donc c'est vrai que c'est un témoignage fort d'engagement civique, d'engagement militant, d'engagement citoyen. Bon, en soi, c'est déjà important que ça puisse exister dans la période dans laquelle nous sommes. Et bien sûr, c'est dans l'idée de confronter des situations pour arriver à trouver les points de faiblesse, pas nos points de faiblesse, hein, les points de faiblesse du système que nous combattons, pour faire converger nos forces, pour barrer la route à un certain nombre de déconstructions qui ont lieu, de réformes, aussi bien sur le plan social que sur le plan écologique, que sur le plan politique. La démocratie est menacée un petit peu partout en Europe. Et donc, c'est faire converger tout cela, effectivement, pour bâtir des rapports de force, bien sûr. Mais ce sur quoi nous insistons beaucoup à ATTAC maintenant, c'est pour ça que je vous parlais des mondes qui émergent, c'est que il ne s'agit pas simplement de créer un événement. Comme ça a pu être le cas parfois, bon, dans notre histoire politique, dans notre culture politique, où on crée un événement, ça peut être une grande université d'été, ça peut être une grande manifestation, qui a valeur d'événement, nous avons besoin de ces événements, mais nous pensons que nous avons besoin de plus que ces événements aujourd'hui. Nous avons à ancrer véritablement ces mouvements sociaux dans la réalité sociale, à les faire vivre de manière continue et pas simplement de manière événementielle lors d'une grande manif nationale ou lors d'une grande université d'été comme celle que nous allons avoir. Et le but vraiment là, hein, c'est de ancrer, de rentrer dans la chair de la société, d'ancrer tous ces mouvements, de les faire converger pour faire rendre visible et faire grandir ces mondes alternatifs qui existent déjà, mais qui parfois sont invisibles, qui ont des difficultés à assurer leur pérennité, qui sont en conflit parfois très important avec l'État. Donc comment, je pense par exemple à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des migrations. Bien, nous avions invité Cédric Héroux à venir à l'université d'été d'ATTAC. Bon, il ne pourra pas venir pour des problèmes de déplacement, de mobilité qui, pour lui, il a une mobilité qui est réduite aujourd'hui du fait de son inculpation, etc. Et
donc, sa condamnation, nous voulons
saisir ces moments-là pour construire des solidarités concrètes. Pas de grandes déclarations abstraites sur de solidarité, mais construire véritablement des solidarités concrètes.
On rentre justement dans le programme. Cette édition est rythmée par différents moments. Il y a 10 forums thématiques et notamment des ponts sur les frontières. Construire une Europe où les migrants et migrantes soient les bienvenus.
Oui, il y a d'autres intervenants qui sont engagés depuis longtemps hein, dans des associations, dans des ponts à des murs, etc., dans des associations qui travaillent justement à construire des ponts au lieu de et combattre tous les murs réels et les murs symboliques qui se construisent en particulier en Europe, mais pas seulement en Europe, mais enfin, en particulier en Europe, et qui empêche véritablement l'accueil des migrants. Alors, concernant les migrations, évidemment, nous sommes conscients de toute la difficulté du problème des migrants, mais aujourd'hui, plusieurs éléments s'ajoutent pour exacerber ce problème des migrations internationales. C'est bien sûr des situations économiques, mais qui sont complètement intriquées. Et on ne peut pas les dissocier, contrairement à ce que voudrait faire la France, notre ministre de l'Intérieur. On ne peut pas les dissocier des questions politiques qui se posent pour beaucoup, beaucoup de migrants, et aussi des migrants qu'on dit aujourd'hui climatiques, c'est-à-dire qui fuient leur pays parce que ils ne peuvent plus vivre dans des conditions décentes dans les endroits où ils avaient établi pourtant leurs racines et leur vie. Et donc, on doit prendre en compte cette situation parce que ce phénomène des migrations, cette explosion des migrants, c'est la conséquence de déséquilibres géopolitiques, de déséquilibres économiques, de déséquilibres écologiques dont nous sommes à l'origine. Et nous ne pouvons pas nous dédouaner vis-à-vis de ça. et en particulier l'Union européenne, ne peut pas se dédouaner de ce qui se passe sur le plan économique. Bon, il n'y a pas que l'Union européenne, bien entendu, il y a les États-Unis, il y a la Russie, etc., etc. Mais là, on parle de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas se dédouaner par rapport à ce qui est à l'origine des migrations. Et donc, bien sûr, il faut traiter les causes des migrations. Mais on ne peut pas simplement s'en tenir à dire on va traiter les causes des migrations. Il faut aussi qu'il y ait une période de transition là, avant que nous ayons pris toute la mesure du phénomène des migratoires et traiter les causes des migrations qui sont des causes structurelles. Nous devons trouver les moyens d'accueillir ces migrants, non pas comme un poids, c'est pas le fardeau de l'homme blanc, mais au contraire comme une possibilité, véritablement une possibilité pour notre société de trouver aussi de se confronter à l'autre, de se confronter à ce qui est étranger pour arriver à construire ensemble une manière de vivre dans un monde qui est radicalement instable, précarisé et parfois imprévisible.
Et ça, ce sera donc un des thèmes d'un des forums qui sera présent pendant ces universités d'été à Toulouse. On va faire une petite pause musicale avant de revenir un peu plus en détail sur le programme. C'est
d'accord.
El Comunero à la Huelga.
Vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, yes, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga, diez, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Soy la besana, desde el torno y el telar, todos los hijos del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Por mí.
vient de s'entendre El Comunero, titre et extrait de leur dernier album sorti toute fin 2016, Son de la Barricada. El Comunero qui sera...
À la Huelga, c'était.
C'était le titre, oui. El Comunero qui sera à l'affiche le samedi 26 août de la Fiesta Attack dès 21h. Donc un petit moment festif au cours de ces universités d'été des mouvements sociaux, co-organisés par Attack France et tout un tas d'attaques en Europe, mais aussi avec la participation d'énormément d'organisations. On peut citer la CRIMED, on peut citer la Confédération Paysanne, le DAL, les économistes atterrés, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, le réseau Monnaie Locale, Greenpeace, etc., etc. Un nombre impressionnant d'intervenants et d'intervenantes. Un programme très riche avec de nombreux thèmes abordés. Tu as parlé longuement là, du thème des migrations, évidemment. Ça amène quand même une question, c'est comment, avec autant de participants, etc., comment vous constituez le programme, comment vous, donc programme avec des forums, des séminaires, etc. Comment vous, est-ce qu'il y a des, au début de la préparation, vous avez des priorités, vous dites bah, tel thème doit être abordé, donc on va appeler telle organisation, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, c'est les organisations qui arrivent et qui disent « nous, on va aborder ces thèmes-là »
Bon, je pense qu'il y a les deux. Hein, il y a eu les deux au départ. Bon, là, beaucoup de ces partenaires sont des partenaires de très longue date, disons, avec qui nous travaillons depuis très longtemps. Hein, mais il y a les deux. Alors, c'est un processus qui a duré quasiment un an. Hein. C'est-à-dire, se mettre d'accord, c'est déjà assez compliqué, sur le thème général de l'université d'été, sur le type de contenu que nous voulons transmettre, que nous voulons voir figurer, le type de plénière, le type de forum, etc., etc. Et ensuite, il y a toute une part. Alors ça, c'est les grands forums de fin de journée. Ils ne sont pas auto-organisés. Là, c'est le comité qui a organisé l'université d'été, qui a décidé pour les plénières et les forums, et qui a pris les décisions. Mais ensuite, en revanche, le programme est construit à partir de propositions qui sont faites pour éviter justement le caractère souvent trop abstrait et déclamatoire des grandes plénières, des grands forums. Le programme a été construit par des propositions qui ont été faites. Alors là, dans le cas de l'université européenne, il y avait des contraintes, puisqu'il fallait qu'il y ait une préoccupation européenne pour toutes les propositions qui étaient faites par des organismes de base. Et donc, il y avait des contraintes, trois organisations européennes minimum. Ce sont vraiment des groupes de base qui ont construit le programme. Alors ensuite, évidemment, nous avons à chaque fois beaucoup trop de propositions, des propositions qui peuvent se ressembler. Et donc là, nous avons un petit comité qui est le comité d'organisation de l'université d'été qui propose des regroupements pour qu'il n'y ait pas de redondance. Et ça, nous tenons vraiment à cette formule-là, qui n'est pas simplement une formule, disons, de type universitaire, avec des experts qui parlent dans des grandes plénières et tout le monde écoute sagement. Là, il y a vraiment une co-construction, et le but, justement, c'est de fortifier les réseaux et de construire de nouveaux réseaux.
Alors, cette université d'été, elle est accessible à tout le monde? Comment ça se passe? Quelles sont les conditions d'inscription? On peut s'inscrire sur le site, on peut aussi venir sur place. Au niveau des tarifs, ça va de 15 à 80 euros. Mais il y a aussi des soirées et des moments qui sont accessibles à tous et à toutes.
Absolument. Nous voulons absolument que cette université soit la plus ouverte possible. Il ne s'agit pas de construire de l'entre-soi, loin de là. Donc il la faut la plus ouverte possible. Il y a des frais d'organisation extrêmement importants, en particulier des frais de voyage, dans la mesure où elle est européenne. Donc il y a des frais de voyage que nous devons absolument couvrir. Voilà pourquoi nous demandons une participation. Mais cette participation, elle est tout à fait modulée aussi en fonction du temps que l'on reste dans l'université et en fonction des revenus. Ça veut dire que si quelqu'un n'a vraiment aucun revenu et tient absolument à assister à une plénière, il n'y aura pas de problème pour rentrer. Nous demandons une participation, hein, donc une inscription de fait avec paiement pour tous ceux qui le peuvent en fonction des revenus, puisque c'est modulé en fonction des revenus. Bon, et ensuite, ceux qui vraiment ne peuvent pas, bien entendu, ne seront pas refoulés.
Alors comment ça se passe? Dans ce cas-là, on invite les gens à se munir d'un justificatif et à se présenter le jour même ou au moment même de, du rendez-vous auquel ils veulent assister, ouais.
On ne demande pas de justificatif.
D'accord. Hein,
je crois que là, on ne demande absolument pas de justificatif. Bon, enfin, vous le verrez, je trouve que chaque fois, tout se passe très bien. Parce que, bon, on fonctionne. Si on ne peut pas fonctionner dans ce cadre-là, sur une confiance et une solidarité partagée, où pourrons-nous vivre cette confiance et cette solidarité partagée? Donc, il n'y a pas de contrôle des papiers pour savoir... voilà, donc c'est vraiment sur une déclaration de la personne.
Alors, pendant ces 4 jours d'université, 5 jours pardon, d'université d'été, il y a plusieurs formes qui sont proposées, à savoir des forums, des ateliers, des séminaires, une plénière au début, une plénière à la fin. C'est quoi, comment ça se décline exactement, ces différentes formes?
Alors, la plénière du début, la plénière de la fin, ce sont des plénières de type classique, hein, qui vont, comment dire, camper un petit peu pour la plénière d'ouverture, un peu tout ce qui va se passer aussi dans l'université. Mais la plénière d'ouverture, je ne sais pas si vous avez regardé les participants à la plénière d'ouverture, il y a plusieurs figures, disons, entre guillemets, internationales ou nationales qui vont intervenir dans cette plénière d'ouverture pour donner un peu le tempo de l'université. Hein, il y a Suzanne Georges en particulier, il y a Achille Memlé du Cameroun, il y a Zoé Constantopoulou, qui est l'ex-présidente du Parlement grec. Il y a Edwin Plenel, qui est, bon, que tout le monde connaît, journaliste à Mediapart. Donc là, ils vont donner, disons, un peu un tempo politique, le contexte politique, le contexte politique, culturel, etc., de cette université. Ensuite, dans la journée, il y a à la fois des ateliers, qui sont des ateliers, donc encore une fois, qui ont été proposés par des mouvements de base sur une base européenne, et des ateliers décennés. Ces ateliers sont regroupés dans un séminaire plus global. Il y a un séminaire sur l'énergie, un séminaire sur l'accaparement des terres, etc., qui va se décliner en plusieurs ateliers. Et il y a des forums en fin de journée.
Les forums, en fait, c'est des conférences, c'est ça?
Les forums, ce sont des conférences. Ce sont des conférences, mais la différence avec les grandes plénières, c'est que il y a des forums qui sont en parallèle. Donc, ce sont des lieux moins importants, disons, hein, moins grands que les plénières de fermeture et d'ouverture.
Et plus spécialisés aussi, du coup, sur des questions plus spécifiques, quoi.
Voilà. Et la dernière plénière, c'est une plénière de mobilisation, véritablement. C'est-à-dire comment on envisage la rentrée, aussi bien en Europe qu'en France.
Donc on rappelle que tout ça a lieu à l'université du Mirail, mais pas que, puisqu'il y a des excursions et des sorties. Hein. Il y a je note notamment Vélorussion qui fait une balade critique. Il y a aussi une sortie à Lautrec pour aller voir le Café Plume. Ça se déroulera jeudi. Donc il y a pas mal de choses qui se passent en dehors de l'université du Mirail. Donc.
Absolument, il y a aussi des films au cinéma Utopia, notamment un film le 24 août, sur tout le mouvement coopératif, l'histoire des coopératives de consommation, en lien avec des expériences coopératives qui se construisent, notamment aussi à Toulouse, ça s'appelle La Chouette. Donc c'est toute l'histoire des coopératives de consommation, là, donc c'est un film.
La Chouette.
Qui sera projeté à Utopia le 24 au soir. Mais il y aura aussi, au sein de l'université, des projections également, hein, de films qui nous ont été proposés, un peu en continu pour ceux qui le souhaitent. Bon, puis la soirée festive, l'idée quand même, c'est de comment dire, de ne pas être simplement dans la victimisation. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des citoyens, des citoyennes engagés pour transformer ce monde-là, même si nous voyons bien la complexité de cette transformation-là, nous voyons bien tous les écueils, mais nous sommes conscients qu'il y a des urgences qui font que nous ne pouvons pas attendre des échéances qui nous seraient données de ci, de là, et que nous devons dès maintenant, et donc dès septembre, et dans la continuité, nous engager dans des luttes, non seulement des luttes de résistance, mais des luttes de construction de ces mondes-là que nous voulons.
Alors, on précise aussi d'ailleurs, parce qu'on parlait des différentes formes qui vont exister au cours de ces universités d'été, qu'il y a également des formations pratiques pour passer à l'action, notamment des ateliers d'activisme créatif et soutenable. Ça, c'est le jeudi 24 août. Le dernier jour, le dimanche, une formation Joyeux Bordel, une boîte à outils internationale pour la mise en œuvre d'actions directes non violentes. Et le même jour, une formation pour les campagnes subversives et l'activisme médiatique pour tous et toutes. Donc ça, c'est un peu, ça rejoint la mise, comment lutter après concrètement sur le terrain une fois qu'on a échangé, partagé des analyses.
Absolument. Et parce que là, ces mouvements sociaux aussi participent, je crois, de l'émergence d'une nouvelle, parce qu'elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas, de la réémergence d'une culture aussi de la désobéissance. Donc il y aura plusieurs ateliers là-dessus, une désobéissance non violente, pacifique, etc., mais une désobéissance qui pour nous devrait être une désobéissance à grande échelle, dès lors que nous avons épuisé tous les recours possibles pour faire reculer ce que nous pensons être véritablement soit liberticide, soit favorisant un véritable écocide, soit à l'encontre de toute idée même de justice sociale et politique, à ce moment-là, nous prenons la désobéissance, parce que nous disons que nous sommes devant un état de nécessité. Et lorsque l'État n'est plus capable de protéger les citoyens, il faut que les citoyens montrent qu'ils peuvent aussi se protéger par des actes de désobéissance. Donc ça fait partie aussi d'une culture qui réémerge, et ceci un peu partout dans le monde, avec toutes ces notions d'occupation. On a eu plusieurs mouvements d'occupation, pas seulement en France, bien sûr, partout dans le monde. Ceci est bien sûr pour nous extrêmement inspirant, parce que cela inscrit les luttes, comme je vous le disais tout à l'heure, pas seulement dans de l'événementiel, mais dans quelque chose qui s'ancre véritablement, qui prend racine et qui peut, dès lors qu'il a pris racine, qui peut véritablement se développer. Donc il y a beaucoup de choses qui tourneront autour de ces sujets-là. Il y aura des débats extrêmement importants, je vous le dis à votre antenne quand même, parce que je pense que on va avoir un temps fort là-dessus à l'Université d'été d'Attaque. Nous sommes très inquiets de tout ce qui se passe dans d'autres parties du monde que l'Europe. Bien sûr, il y a les États-Unis d'Amérique. Je sais que Suzanne Georges, à la plénière d'ouverture, va parler de la situation avec Trump, qui concerne bien sûr les États-Unis, mais qui concerne le monde entier, quand on entend toutes ces déclarations. Donc tout ce problème autour de l'hégémonie américaine et de ce qu'est aujourd'hui le Trumpisme, je dirais, mais aussi tout ce qui se passe en Amérique latine. Et je voudrais dire que pour Attaque, nous travaillons depuis plusieurs années avec une association qui s'appelle la Fondation Solon, puis d'autres associations mondiales. D'ailleurs, nous publions un bouquin qui sortira pour l'université d'Attaque, qui s'appelle « Un monde qui émerge », qui sera là pour l'université d'Attaque, avec notamment, il y a Christophe Fouton, Elisabeth Peredo de la Bolivie, moi-même pour la France, et Pablo Solon. Pablo Solon est bolivien. Pablo Solon, nous l'avons rencontré depuis 2007-2008, puisqu'il était le négociateur bolivien dans le cadre de négociations climatiques internationales. Pablo Solon, donc, est un de nos compagnons, véritablement, avec lequel nous travaillons. Nous participons à un groupe qui s'appelle Alternatives Systémiques. Il y a une plénière là-dessus, sur les alternatives systémiques, les alternatives radicales, qui est prévue le dimanche après-midi, à laquelle devait participer Pablo, à laquelle je participe. Mais Pablo Solon, pour des raisons politiques boliviennes, est aujourd'hui menacé d'emprisonnement et menacé, en tout cas, il ne peut pas sortir du territoire. Donc il ne sera pas présent à l'université d'été d'Attaque. Nous en, Nous en sommes désolés. Il se bat aujourd'hui avec des indigènes, des peuples indigènes boliviens, contre la construction de deux énormes barrages, de deux méga barrages. Bien sûr, nous sommes tout à fait pour l'énergie hydraulique, mais dans le cadre de petits barrages appropriés véritablement par rapport aux écosystèmes et par rapport aux gens. Et là, ce sont deux immenses barrages, dont d'ailleurs le financement est plus ou moins, peut tout à fait se discuter, par des firmes internationales, en particulier des firmes italiennes. Et Pablo se bat d'arrache-pied contre ces barrages, comme il s'est battu alors qu'il était à l'ONU, et ça l'a conduit à démissionner contre la répression de peuples indigènes qui s'opposaient à la construction d'une transamazonienne à l'intérieur de la Bolivie, donc qui s'oppose, qui a été ministre de Evo Morales, qui a démissionné et qui aujourd'hui s'oppose à la politique productiviste, extractiviste à outrance d'Evo Morales, et qui pour cela est poursuivi à l'intérieur même de la Bolivie, qui ne pourra pas être présent. Ceci pour vous dire que nous aurons pas mal aussi d'invités latino-américains lors de cette université d'été.
Oui, donc ça parlera donc de France, d'Europe, de monde, on a bien compris, hein, ces universités d'été des mouvements sociaux. Je voulais te poser une question un peu plus, réellement adressée à toi. Hein, on l'a dit, tu es chercheuse en économie à l'université d'ailleurs du Mirail. Tu es à la retraite, tu étais chercheuse. Mais enfin bon, on a eu l'occasion, pour les Toulousaines et Toulousains, beaucoup ont eu l'occasion de te voir aborder des sujets importants, je me rappelle notamment au moment du mouvement des retraites. Tu as aussi pas mal bossé sur la dérégulation du droit du travail, et donc je voulais te demander un petit peu comment tu voyais la séquence en cours, et notamment cette loi Travail 2, cette loi Travail XXL qui est en cours d'élaboration. Là.
Et je rajouterai à la question, du coup, comment ça peut s'articuler avec cette plénière de fin de ces universités d'été où tu disais que ce serait une plénière de mobilisation, justement.
Bon, là, je peux pas dire complètement l'avenir proche. Hein. Nous souhaitons, bien entendu, qu'il y ait une mobilisation massive contre cette loi travail de cette loi, je sais pas comment on peut l'appeler aujourd'hui, cette XXL de loi, effectivement. Nous n'en connaissons pas la recette de cette mobilisation qui devrait vraiment engager l'ensemble de la société, parce que il s'agit non seulement d'une modification de la juridiction du travail, ça c'est sûr, hein, au nom d'une simplification, au nom de la liberté, mais c'est tout un rapport au travail, c'est toute la nature même du travail que nous souhaitons aussi voir discuter à cette occasion-là. C'est un enchaînement à un travail précaire, à un travail ubérisé, hein, c'est commun de le dire, et qui modifie considérablement le rapport au travail, le rapport à l'activité, et qui est pour nous destructeur véritablement au niveau des sociétés, qui accroît la concurrence entre les individus, qui met la compétitivité véritablement, même si certains s'en défendent, qui met l'idée de compétitivité, d'efficacité, etc. dans le travail au centre, au lieu d'eux, des grandes valeurs de coopération que nous prônons, et sans doute aussi d'une réflexion, mais dont nous avons un besoin absolument urgent, c'est quels sont les types d'activités qui sont prioritaires. Il y a des activités aujourd'hui, pour des raisons écologiques, qui ne doivent pas, absolument pas, être favorisées. Je pense en particulier à tout ce qui est du domaine du nucléaire et du trou sans fond qu'aujourd'hui, qui est le financement d'Areva par l'État, alors que par ailleurs, on nous demande de faire des tas d'économies partout, mais c'est 4,5 milliards qui vont être engloutis une fois de plus dans le soutien à la filière nucléaire, dont nous savons que c'est vraiment le verrou pour empêcher toute transition énergétique qui, elle, serait créatrice d'emplois et de nouveaux emplois, des emplois qui auraient du sens, en tout cas du sens pour les gens qui travaillent. C'est plus agréable quand même de travailler quand on sait qu'on travaille de manière propre pour le bien de la société, pour etc., plutôt que quand on travaille à l'intérieur d'une filière dont on sait qu'elle est profondément dangereuse, qu'elle n'est pas qu'elle coûte cher, très cher à la société, et qu'elle ruine des possibilités de transition. Donc ça, effectivement, nous souhaitons véritablement une réflexion, une mobilisation tous azimuts sur cette manière d'aborder la question du travail qui est indigne, je dirais, à travers cette nouvelle loi. Donc la forme que cela va prendre, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que nous avons eu au printemps une mobilisation assez extraordinaire par rapport à la loi travail.
Printemps 2016, hein,
pour préciser. Printemps 2016, pardon, oui. Printemps 2016 par rapport à la loi travail, qui a combiné, et ça c'était assez extraordinaire, différentes formes de lutte, des luttes traditionnelles, syndicales, je dirais, hein, qui sont nécessaires, et en même temps tout un mouvement de citoyens autour de Nuit Debout et d'autres initiatives qui ont permis véritablement une expression politique sur cette loi qui s'appelait à l'époque la loi El Khomri. Donc on peut espérer voir émerger une mobilisation de ce type.
On l'espère.
C'est ce que nous souhaitons.
Oui, nous aussi.
Que nous souhaitons. Après, il y a le réel. Et les choses ne sont pas automatiques. Bien entendu, il n'y a pas un bouton sur lequel on peut presser véritablement pour lancer les mobilisations. Et bien souvent, des mobilisations aussi peuvent très bien démarrer à partir d'un endroit qu'on n'attendait pas.
Comme ce fut le cas d'ailleurs au printemps 2016.
Absolument. Ouais. Et donc, je crois que pour que puissent surgir ces moments qu'on n'attend pas, qui vont faire événement véritablement, il faut malgré tout avoir une vigilance sociale extrêmement grande, une capacité de se mobiliser très vite extrêmement grande, et le but de ces universités ou de ces moments de rencontre, c'est de maintenir la flamme vraiment, la maintenir vraiment éclairée, c'est garder toute notre capacité de résistance, notre capacité de réaction à l'événement. Il ne s'agit pas de planifier, je crois. Je ne crois pas à ce qui va se passer dès le mois de septembre. Il va y avoir, espérons-le, des événements inattendus. Et là, nous devrons être prêts pour que ces événements inattendus puissent permettre une coagulation de ces résistances, de toutes ces expériences qu'il y a partout.
L'université d'été européenne des mouvements sociaux est donc ouverte aux inscriptions sur le site internet esu2017.org.
ESU, on peut ESU, hein, donc tout
ESU,
simplement.
Voilà. On peut aussi venir sur place directement.
Voilà.
Ça commence mercredi par la plénière et c'est à 17h. On peut arriver dès 12h et ça se termine dimanche. Merci beaucoup Geneviève Azam de nous avoir présenté cet événement et de nous avoir accordé cette interview.
Merci Geneviève, et on va se quitter avec un mot.
On peut peut-être rappeler que c'est à l'Université du Mirail, on ne l'a pas vraiment précisé.
Université Jean Jaurès, le Mirail, ouais.
Voilà.
On va se quitter avec un morceau de L'Erreur, qui passera en concert d'ailleurs pendant ces universités
d'été.
Oui,
c'est le samedi, le même jour que El Comunero pour l'attaque partie, le samedi soir à 21h. L'Erreur qui est un rappeur toulouso-marseillais, entre Toulouse et Marseille. Et le morceau c'est...
Juste la chute.
Ceux qui reviennent chaque nuit, qui te prennent à la gorge et qui font que difficilement tu respires. Oublie ta peur et tes complexes, toutes ces angoisses qui te paralysent. Ta honte chronique, ta jalousie, ta fierté maladive. Oublie tes rêves et tes espoirs déchus. Ton impatience moqueuse étouffe là, fais taire ces voix qui planent au-dessus. Ta destinée rieuse, ta parole menteuse, bâillonne là, jusque là, elle ne t'apporte que des tourments. Oublie ta soif et ta couleur de peau, leurs critères de beau, tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu n'as pas fait. Oublie celui que tu rêvais d'être, celui que tu aurais pu devenir, oublie celui que tu étais. La peur des lendemains qui te fait courir, ce stress qui t'étouffe, ce stress partout, laisse-le mourir. Oublie chacun de tes repères auxquels tu te raccroches tout juste. Oublie que tu es finalement seul, dans le silence de la chute. Oublie les heures et les saisons, ton petit bonheur et ta raison, ton chien, tes potes, ta femme et ta maison. Oublie l'amertume de tes jours gris, leurs mensonges, leur bien-pensance quand ils sont sûrs d'avoir tout dit. Les rires moqueurs et les applaudissements des autres, ton orgueil bâtard, ton manque de courage, ta recherche d'un idéal, tes croyances naïves et tes espoirs risibles, ton costume et ta posture qui font les déguisements de l'âme. Oublie toutes ces fois où tu as baissé la tête, honte de ta propre lâcheté, sans jamais pouvoir dire arrête. Tes choix, l'échec, leurs lois, leurs guerres, leur foire pour le pouvoir. Débarrasse-toi de ce poids, abandonne tout ce qui te gêne et t'encombre. Tes habitudes qui te suivent jusque dans le geste. Tes réflexes poisseux, ton ambition, ta rancune, tout le reste. Ta voix, ta peur de la perte, ta politesse, ta colère, tes regrets, tes erreurs, tes névroses. Laisse tout tomber, laisse-toi tomber. Apprécie juste la chute. Apprécie juste la chute. Apprécie juste la chute. Apprécie juste.